RCF. Christian Bobin, c'est un vrai plaisir, toujours renouvelé, de vous retrouver chez vous, dans votre maison, à l'orée de la forêt, près du Creusot, la ville de votre enfance. La dernière fois que je suis venu vous rencontrer, nous étions au coin du feu pour parler de l'esprit de Noël. Et cette fois-ci, nous sommes dehors, sur la terrasse, en plein soleil, à quelques mètres des herbes folles que vous laissez pousser. Vous êtes écrivain, poète, et c'est autour de votre nouveau livre que nous allons échanger aujourd'hui, un livre intitulé « Un bruit de balançoire » que vous publiez aux éditions L'Iconoclaste. Alors il y a un personnage qui vous a accompagné tout au long de l'écriture de ce livre, c'est Ryokan, un moine errant et poète japonais de la fin du 18e, début du 19e siècle. Et vous écrivez dans votre ouvrage « Je n'ai pas écrit un livre sur Ryokan, mais avec lui ». Et le « avec » est le seul mot souligné du livre. Qu'est-ce qui vous a attiré chez ce moine zen ?
Si vous saviez à quel point je cherche la joie. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est séparé de façon étanche de toute douleur, de toute difficulté. Mais je cherche quelqu'un. Toujours, je cherche quelqu'un.
Depuis toujours ?
Toujours. Depuis toujours. C'est peu à peu, en écrivant, que j'en ai pris conscience. Vous voyez ? Mais écrire pour moi, c'est appeler dans le noir, espérer qu'il y ait un écho, espérer que la parole va s'éclairer en butant contre un visage. Et là, en l'occurrence, Ryokan, poète japonais, grand poète, grand moine du 19e siècle, il est venu ici, dans ma maison, parce que j'ai, entre autres, infirmité de ne pas non plus séparer. Je ne sépare rien. Je ne sépare pas non plus les présents des absents. Donc, cet homme a beau être dans une île où je ne suis jamais allé, il a beau avoir été confit dans son 19e siècle et ses cendres y restaient définitivement, ou y volaient plutôt, ici ou là, et puis disparaître, et puis revenir autrement, sous une autre forme. Eh bien, il est là. Quand j'ouvre un de ses livres, il est là, et il a cette qualité que je demande, c'est un peu fort comme terme, mais que j'espère plutôt en toute personne que je vois venir ou que je rencontre, la gaieté. Pas le bonheur, pas l'optimisme, la gaieté. C'est-à-dire, mais on en parlera peut-être, on précisera peut-être.
Oui, il est joyeux. Vous l'avez senti comme quelqu'un de joyeux.
Il est joyeux jusque dans le... Il est vrai, voilà. Il est vrai. Quand ça va pas bien, il dit que ça va pas bien. Et c'est très curieux, il le dit si légèrement que vous vous sentez bien et que vous êtes devant comme un frère et que plus rien n'est... Puisque celui-là a traversé une épreuve, alors il a comme, avec sa parole, avec son poème, il a comme béni mon épreuve à moi.
Et vous venez d'utiliser le mot de frère. Moi, j'ai senti que Ryokan, c'était votre frère. Et parfois même, je me demandais si vous parliez de Ryokan ou si vous parliez de vous-même. Au cœur de votre nouveau livre, il y a « Mon bon Ryokan ». Vous lui écrivez une lettre. Et vous commencez comme ceci. « Je n'ai rien fait de ma vie. Rien. Juste bâti un nid d'hirondelle sous la poutre du langage. » Et là, je me suis dit « Mais c'est Ryokan ou c'est Christian Bobin ?»
On peut dire ça de lui.
Et on peut dire ça de vous.
Et on peut dire ça de moi. En tout cas, je le dis. Je le dis.
Et alors ce rien, ce mot de rien, je n'ai rien fait de ma vie. Ça, j'aimerais qu'on passe un moment autour de ce rien. Qu'est-ce que c'est que n'être rien ?
Vous voyez, on vous apprend, et on a peut-être raison de le faire, dans un premier temps c'est nécessaire, on vous apprend dans cette vie, quand vous êtes petit, et un peu plus tard aussi, à chercher les choses solides. Les choses solides vous sont données parfois par la morale, elles vous sont données par un travail, par des récompenses, par de l'argent, par des soucis, parce que Dieu sait si les soucis en nous sont solides, ainsi de suite. Or, peu à peu, parce que le sol à certains moments se dérobe sous nos pieds, parce que ici ou là il y a une épreuve, ou alors il y a une joie qui ouvre aussi un abîme, on s'aperçoit que les choses dites solides ne le sont pas en vérité. L'argent, les affaires, les soucis, les savoirs, les certitudes, ça ne tient pas vraiment le coup, ça ne tient pas le choc, ni de la grâce, ni de l'épreuve. Qu'est-ce qui reste ? Il reste ce qu'on peut appeler rien. Mais ce rien, il est de la plus haute qualité. C'est la fleur même de la vie. Comment je pourrais vous le préciser ? Il faudrait... Nous sommes là sur une terrasse. Cette émission est capturée en été. Et
on a un papillon qui est en train de voler autour de nous et on entend les insectes derrière nous, au milieu de vos herbes sauvages que vous n'avez pas coupées.
Voilà.
On n'est pas face à un jardin entretenu chez vous.
Voilà, voilà. Et c'est bien que vous parliez du papillon, parce que le papillon, c'est, dans un jardin, c'est comme une question qui vole. Et il n'y a pas de réponse. Mais la question est elle-même suffisante, elle est elle-même rafraîchissante, elle traverse tout. Et ce rien dont je parle, il a la délicatesse des ailes du papillon, vous voyez ? Un peu ce... Je dis que c'est rien parce que il me semble qu'il faut protéger le plus profond du cœur, ce que vous aimez le plus, il faut le mettre à l'abri dans un mot qui le cachera. Même quand vous le donnerez, il sera caché, de façon d'ailleurs à ce que le don puisse se faire. Ce sera la personne en face de l'ouvrir. Vous voyez ? Et c'est un sentiment. C'est un sentiment qui n'est pas sentimental. C'est un sentiment. C'est une sorte d'intuition. C'est... Vous ouvrez la fenêtre un jour. Parfois, vous voyez du linge qui flotte. Vous ouvrez la fenêtre et puis vous voyez votre vie qui passe. Elle n'est plus en vous, elle est en dehors de vous. Et vous acceptez qu'elle passe. Et vous trouvez rien de plus beau tout d'un coup, vous ne reconnaissez rien de plus beau que ce passage. C'est ce rien, c'est la pensée peut-être la plus pure qu'on puisse avoir sur la vie. Et elle est difficile à préciser, comme vous entendez.
Vous écrivez dans votre livre, « N'être rien, peu y parviennent. On dit qu'ayant tout trouvé en lui, au plus blanc de la montagne de son cœur, aux neiges éternelles de son sang, ayant trouvé plus que tout, Ryokan est redescendu se mêler aux simples et aux perdus. Il ne leur faisait pas la morale et ne leur parlait pas des dieux. La silencieuse intelligence qu'il avait de la vie se communiquait à tous comme une guérison virale. »
Oui. Oui, parce que là, c'est ce par quoi nous avons chance d'instruire autour de nous. Ce ne sera pas tant avec nos paroles, ce ne sera pas même avec une morale, mais c'est cette chose impondérable qu'est la présence, la vérité de notre présence ou de notre voix. C'est ça qui va toucher l'autre. Et c'est ça qui va peut-être le réveiller, et c'est ça en lui qui va nous réveiller. Parce que ça se passe dans tous les sens, cette histoire. Ce que vous venez de lire, il y a plusieurs fables ou... Enfin, qui sont plus que des fables, d'ailleurs, qui sont des petits, comme des mini-évangiles concernant Ryokan. Et un jour, il séjourne. Il est mendiant, alors on l'accueille ici ou là. Et un jour, il séjourne dans une famille dont le fils est brutal. Et il ne dit rien. Lui, il ne dit rien à ce fils. Rien. Il reste 2-3 jours. Et le dernier jour, le troisième jour, il demande juste, parce qu'il a quelques difficultés à se pencher, il demande juste au fils de l'aider à nouer une chaussure, à lasser une chaussure. Le fils s'agenouille et puis le Ryokan verse juste une larme parce que il sait toute la douleur qu'engendre ce garçon et il sait aussi que cette douleur vient elle-même d'une douleur à l'intérieur du cœur de ce garçon. Et l'enfant, l'adolescent, relève la tête et comprend comme on comprend seulement l'essentiel, c'est-à-dire par un éclair, sans mots. Il comprend que cet homme est en empathie avec lui. Il est en empathie avec la famille entière qui est déchirée par un seul des siens. Et il est en empathie aussi avec lui. Et l'attitude de cette, adolescent changera du jour au lendemain, sans qu'un mot de reproche lui ait été fait. Vous voyez ? Et ça, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
L'enseignement des enseignements.
Ah oui.
Silencieux.
Ah oui. Mais les enfants, tout petits, ils ont cette chose, c'est-à-dire, ils ne vont pas nous juger sur ce qu'on dit. Tenez, là en ce moment, j'ai mes deux mains offertes, ouvertes vers vous, un peu le bras, un peu en oblique, appuyé sur la table, le coude sur la table. Et je pense qu'un enfant qui n'aurait pas tous les mots, se demanderait un peu ce qu'on fait qui est un peu étrange, mais regarderait, et même en une seconde, verrait beaucoup de choses. L'attitude du corps, l'attitude du visage, le timbre de la voix. Je suis maladivement sensible aux voix. Elles mentent, et elles disent qu'elles mentent quand elles mentent. Elles ne le savent pas, mais elles disent qu'elles mentent. Vous savez ça, vous, hein ?
Non ? J'essaye d'écouter.
C'est oui, voilà. Il suffit d'écouter. Mmh. Et une voix qui cherche, qui dit le vrai, mais il n'y a rien de plus... Je m'exalte un peu en vous parlant, en répondant à votre question, mais parce que je pense que nous pouvons être des miracles les uns par rapport aux autres. Et je pense que nous pouvons... Ce n'est pas un moine, ce n'est pas extraordinaire. Un saint, ce n'est pas extraordinaire. C'est la vie qui est extraordinaire. Et si nous nous mettons dans son flux, nous pourrions, je crois, obtenir des choses comme dans cette histoire, comme dans ce passage que vous avez lu, silencieusement, sans morale, juste avec une empathie brûlante de l'autre, une compréhension de l'incompréhensible.
Christian Bobin, j'ai commencé par ce mot difficile, ce mot de rien. Il est vraiment important. Tout au long de votre livre, il revient à plusieurs fois. Quand vous demandiez à votre père, qui était vivant encore, vous lui disiez « qu'est-ce que je peux te faire comme cadeau pour ton anniversaire ?» Il répondait « rien ». Vous dites qu'il n'y a rien de plus difficile que d'offrir rien.
Oui.
C'est rare à trouver. Oui. Ce mot de rien, il est fondamental, j'ai l'impression, chez vous. Et notamment, par exemple, la notion de ne rien faire. Beaucoup de gens disent oh « mais Christian Bobin, c'est un contemplatif, il est chez lui, il écrit certes, et puis souvent il ne fait rien ». À plusieurs reprises, on perçoit dans votre livre que Ryokan, votre frère, comme vous, vous restez sans rien faire. Mais dans ce rien, on a l'impression qu'il se passe tellement de choses. Regardez passer un nuage, regardez une fleur ou... comme tout à l'heure, un papillon volé. J'aimerais que vous nous aidiez à comprendre ce que c'est que ce rien faire qui est propre à certains moines zen, puis on a l'impression qu'il est propre à Christian Bobin aussi.
Je vois la totalité, et quand je dis je vois, je la ressens, comme un livre, la totalité de la vie, comme un livre. Chaque journée est une page entière enluminée et qu'on me propose de déchiffrer. Donc la plupart du temps, je préfère me taire au fond, bien que je sois un peu bavard, mais la plupart du temps, je vais plutôt me taire. Je vais regarder, passionnément regarder comme un affamé. Je vais regarder, par exemple, on peut regarder le pain. Si on le regarde comme un affamé, on va le connaître profondément, le pain. Et aussi, peut-être, on pourrait aller par la voie du cœur, de l'esprit, à retrouver le blé qui a engendré ce pain, à retrouver, à deviner quelque chose des hommes qui ont travaillé sur ce champ, quelque part, à retrouver aussi le mouvement, j'exagère, mais si je n'exagère pas, on ne verra rien, à retrouver et presque à entendre le mouvement du vent sur le champ de blé qui, peu à peu, par des tractations, par des labeurs, par des sueurs, par un travail nocturne et très poétique, du boulanger va arriver à ce pain sur la table, pour peu qu'il soit bon, pour peu qu'il soit pas tout à fait industriel, produit sans âme. Et ne rien faire, c'est réfléchir, mais d'une façon qui n'est pas abstraite.
C'est-à-dire...
Je pourrais presque l'exercer comme ça devant vous, là, maintenant, parce que vous êtes en face de moi, et puis en arrière, il y a une sorte de jardin en friche. Un bruit d'avion aussi, parce que la forêt est sous un couloir aérien. Et ce bruit n'est pas déplaisant. Ce bruit, il est... Alors, voyez, par exemple, ce bruit, je le vois comme un bruit de fer à repasser. Sur un... vous voyez ? Sur un linge.
Sur un linge blanc ?
Sur un linge bleu.
Sur un linge bleu.
Voilà. Et je vois les correspondances entre les choses. Mais je les vois à condition de ne pas être encombré par une occupation.
Mais on a l'impression que vous êtes né comme ça. Et à un moment, je crois que vous demandez dans une lettre à votre mère, mais comment as-tu fait mon cerveau ?
Oui.
Et vous êtes né comme ça, ou ça a grandi en vous ? Le fer à repasser insiste là.
C'est magnifique.
Vous qui aimez la musique, oui. C'est oui. Une forme de musique.
Ah, c'est magnifique.
On le voit voler dans le ciel bleu autour de nous.
Et vous...
Il tourne autour de nous. Il tourne autour de nous. Et comment vous le recevez, ce son ? Pour certains, ce serait insupportable. Vous l'accueillez comment ?
Est-ce que vous allez le laisser, ce son ?
Oui.
D'abord, il est bien parce qu'il nous interrompt. Il nous fait une bonne leçon, justement, si je puis dire. Mm-hmm. Le son nous fait une leçon. Et puis, il a quelque chose de... Il avait toutes les nuances. Il y a un moment, c'était comme une sorte d'orage. Je crois que ce sont des avions à réaction d'une base aérienne, pas très loin, vers Dijon, je crois. Et... Est-ce que je suis... Maintenant qu'il s'éloigne et qu'un peu de paix est revenu, est-ce que je suis comme ça depuis toujours ? Mm-hmm. Moi, je crois, oui. Moi, je crois. J'ai ma tête appuyée, j'ai une tête un petit peu ronde comme ça, j'ai une tête d'enfant, si vous voulez, appuyée contre la vitre du réel. Et je regarde. J'attends que quelqu'un vienne. J'attends quelque chose, mais d'une attente qui est très douce, sans impatience, qui ne se connaît même pas. La plupart du temps, c'est une attente qui ne se connaît pas.
Mais vous attendez qui ?
Quelque chose qui vient tout le temps. C'est compliqué. Oui. Hein. C'est compliqué. Mmh. Comment je peux vous donner un exemple ? Je vais vous donner l'exemple le plus récent. Là, je suis engagé dans un texte depuis quelques jours. Et j'avais envie de construire des variations, un peu comme les variations Goldberg, des variations musicales. C'est-à-dire j'imagine, ça n'existera peut-être pas, hein, ça ne donnera peut-être rien du tout, mais j'imagine un livre qui sera construit en variations, comme ce célèbre morceau de Bach. Donc, on irait un peu partout. On se laisserait traverser. On accueillerait ce qui vient. Sur la porte en arrière de vous, la porte vitrée, je ne sais pas si vous le verrez de ce côté-là, il y a une trace de main. Et je l'ai vue ce matin. Je ne sais pas comment c'est... Il y a 4 doigts, le pouce n'a pas marqué. Et j'ai regardé ça et j'ai vu l'image de l'écriture. J'ai pensé aussi aux images de radiographie. Et cette main sur la vitre, elle est de l'autre côté des images de radiographie. Elle est contraire. Elle ne vient pas d'une machine. Elle est juste un vivant contre un peu de verre. Et sans doute quelqu'un a-t-il poussé cette porte vitrée dans le mauvais sens. Donc il a insisté. Il fallait tirer. Il l'a poussé. Donc ça a laissé cette trace que je trouve très belle, comme une relique vivante, comme une relique humaine. Et je me suis mis à réfléchir dessus, et j'ai revu J'ai revu que quand j'étais enfant, c'est mon père qui m'a appris à nager dans l'Atlantique, dans les eaux argentées de l'Atlantique. Et il me tenait, le souvenir est revenu, il me tenait par le menton, il mettait sa main sous mon menton, de façon à ce que je puisse commencer les mouvements de brasse. Et j'ai pensé aussi, c'était plus vite que tout, j'ai pensé que même quand nous sombrons, il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous maintient la tête, le menton hors de l'eau. Il y a une main ferme dans cette vie. Et ne rien faire, c'est avoir confiance en cette main. Du secours vient tout le temps.
Même dans les moments les plus durs de la vie.
Surtout dans les moments les plus durs. Surtout dans les moments les plus durs. Parce que ces moments les plus durs, ils ont une vertu. Il ne faut pas les rechercher. Ça serait misérable et ça serait doloriste. Et pas bon. Mais quand ils sont là, ils sont là. Et ils ont une vertu, c'est qu'ils abrasent. Ils passent tout le réel à la soude caustique. Ils éliminent le superflu. Ils nous resserrent, si vous voulez. Ils nous resserrent sur nous-mêmes. Ou plutôt sur notre cœur.
Et l'écriture, Christian Bobin, vous aide à être plus attentif à cette main qui est là toujours partout dans la vie.
Ah oui, mais elle me l'a fait voir. Parce que j'ai commencé l'écrire. Bon, l'instant c'est un brouillon et peut-être il existera un jour dans un livre ou peut-être pas. Mais c'est l'écriture qui me fait voir. Dans la vie, pour prolonger cet exemple, dans la vie, je vois juste ce qu'une ménagère voudrait se dépêcher de nettoyer, ce qu'une ménagère ou qu'un homme qui tient son logement propre voudrait se dépêcher d'effacer. Et moi, voyant cette main, je commence à écrire dessus. Je prends mon feutre et j'ai envie d'écrire, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ça se tricote. Je me souviens d'une radio des mains que j'avais vue. Je me souviens comment les médecins accrochent aussi un peu avec une sorte de brutalité rapide la plaque photographique comme ça sur un feu de lumière blanche. Et puis je me suis souvenu aussi de cette main paternelle qui m'évite le naufrage, qui m'évite de boire la tasse. Et puis ainsi de suite. Tout m'apparaît jusqu'à ce que j'ai vu. Soit riche de presque la totalité du monde.
Christian Bobin, dans cette émission Visage, je reçois souvent des voyageurs, voire des aventuriers. Vous êtes un aventurier d'un autre type. Vous ne bougez pas, ou très peu, de cette maison. Dans votre dernier livre, Un bruit de balançoire, des amis veulent vous inviter en Suède et vous leur écrivez pour essayer de leur faire comprendre que vous ne souhaitez pas voyager. Et vous écrivez ceci: ils sont partout, sauf en eux. Ces gens qui font le tour du monde. Le plus long voyage que j'ai fait, c'était dans les yeux d'un chat. Vous ne croyez pas au voyage? Vous ne croyez pas que des gens peuvent se découvrir, rencontrer, vivre une véritable expérience forte dans
sûrement,
le voyage?
Sûrement, s'ils en témoignent, je les crois. Je suis quelqu'un de très crédule. Si on me dit quelque chose, si à l'oreille j'entends la note vraie, je crois ce qu'on me dit. Et si ça chahute une pensée que j'ai, je la laisse être chahutée. Oui, c'est possible qu'un voyage nous instruise ou...
Mais au bout du compte... Nous transforme même.
Au bout du compte, ce ne sera pas le voyage lui-même, ce sera l'humain. Et ça peut, il peut être en bas de l'immeuble, il peut être dans la rue à côté. Peut-être pas nécessaire d'aller au bout du monde. Peut-être pas. Vous me demandez si je crois au voyage. Je crois en très 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 peu de choses. Très peu de choses. Mais je ne crois pas non plus aux racines. Voyez.
Alors que vous n'avez quasiment jamais quitté votre lieu racine qui est le Creusot.
Oui, oui. Là on est à 12 kilomètres à peu près.
C'est ça. Oui. Première fois que je vous avais rencontré, vous étiez dans l'immeuble où vous aviez pratiquement vécu toute votre vie, en Creusot. Puis vous avez quitté cet immeuble, vous êtes venu ici.
Une
grande aventure, 12 kilomètres, vous êtes dans cette maison, vous rendez compte. À l'orée de la forêt. Quel déplacement. Et alors, ce qui m'a intrigué, c'est que, bon, je crois que vous n'aimez pas le voyage, mais vous aimez les gens du voyage. Et c'est vous qui m'avez fait connaître Alexandre Romanès, Jean-Marie Kerwisch. Des gens du voyage, des gitans.
Oui.
Expliquez-moi ça. Vous qui n'aimez pas le voyage, vous aimez les gens du voyage.
Il y a plusieurs réponses que je pourrais vous faire. D'abord, c'est que quand les contraires s'attirent, les contraires se parlent et s'aiment beaucoup, en fait. Et moi, je pourrais passer ma vie sur un espace guère plus grand qu'un timbre-poste. Et ces gens qui bougent, qui ont la bougeotte, qui vont sous tous les cieux, idéalement, parce que parfois ils ont de la difficulté à se déplacer. Ces gens me parlent, les contempler, les rencontrer, converser avec eux, me donnent l'air qui risquerait sinon de me manquer peut-être. Voyez. Donc moi j'aime lier commerce de paroles et de regards avec toutes sortes de gens. Les gitans, c'est un peu des hommes christiques. Ils sont d'abord parce qu'ils sont chassés, d'abord parce qu'on n'en veut pas. Ils sont placés les campements nomades sont souvent, presque toujours dans les villes, quand elles se résolvent à leur donner un espace, ça va être
le pire endroit.
Au bord de l'autoroute, ou de la décharge municipale, ou d'un chemin de fer. Enfin, c'est les grands classiques. Et c'est pas ce qui me touche chez eux, c'est pas tant leur pauvreté que la royauté de cette pauvreté. C'est l'éclatement des yeux des enfants, c'est 10 000 soleils sur chaque visage, et c'est des paroles très brutes et qui sont comme un volcan de poésie, de poèmes. C'est leur toucher de la vie qui est presque encore intact. Parce que ils sont très près de la vie des gens de Palestine au temps de la Bible et du Christ. Ils ont affaire à l'essentiel. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils cherchent à manger. Pour ça, ils peuvent être parfois truqueurs, mais tout ça est comme sauvé par une sorte d'allégresse, une sorte de joie qui circule même quand la vie se fait froide, glacée.
Et c'est pas votre regard sur eux qui les rend comme ça?
Ah, je les rends pas comme ça, ils sont comme ça. Si vous
voyez comme ça.
Oui, par exemple, prenez le livre de. Il y a deux livres qui sortent en septembre. Il y en a un qui est sorti un tout petit peu plus tôt, mais que vos auditeurs peuvent trouver. C'est de Jean-Marie Kerwisch. Ça s'appelle Le Livre Errant. Très beau titre, je trouve. Et il y a un livre d'Alexandre Romanès qui sort en septembre, qui s'appelle Le Lutte Noire. Deux livres de gitans, c'est déjà invraisemblable, parce que c'est un peuple qui n'écrit pas.
Qui est de tradition orale.
Et de tradition orale. Mais leurs mots ont gardé cette oralité. Et ce sont des livres qui tapent en plein cœur. C'est pas moi qui les idéalise. Ce sont plutôt eux qui me révèlent à moi-même. Comme peuvent faire d'autres personnes, comme peut faire la page d'un poète qui, lui, n'aura pas quitté sa chambre. Mais
comme vous faites. Parce que beaucoup de gens sont...
C'est gentil de me dire ça.
Mais
je ne peux pas le voir, ça.
C'est pas de la flatterie.
Oui,
vous savez très bien que vos textes, vos mots, ont rejoint des milliers de lecteurs, ont bouleversé leur cœur.
Il y a quelque chose en moi
qui... Ont changé leur regard.
Oui, il y a quelque chose en moi qui... Je pense que... Oui. Voilà, d'abord oui. Mais en même temps, je ne peux pas vivre avec ça, vous comprenez? Je ne peux pas vivre avec cette pensée-là.
Vous n'avez pas envie de donner? Vous le savez très bien, vous donnez à travers vos textes. Et quand quelqu'un vous dit « Votre texte a bouleversé mon cœur, a changé mon regard sur la vie », vous avez du mal à l'entendre?
Je le crois. Mais c'est très touchant, c'est prenant, si vous voulez. Et je reste un petit peu muet, mais je veux dire simplement que quand j'écris, je ne cherche pas à écrire pour quelque chose, voilà.
Ou pour quelqu'un.
Ni même pour quelqu'un. Je cherche à ce qu'il y ait un tout petit peu de lumière dans le noir de ce monde, c'est tout. C'est tout. Et je peux pas... mon souci, c'est le livre à venir. C'est pas les livres déjà faits. Mon souci, c'est le livre à venir. Mon souci, c'est le... Ou plus exactement, mon souci, c'est le présent, voilà. Mais je comprends ce que vous me dites. Mais
c'est-à-dire que ce livre-là que vous sortez actuellement, il est derrière vous. Pour vous, ce qui compte, c'est ce que vous êtes en train d'écrire aujourd'hui à votre table, dans votre petit bureau ici, dans la maison.
J'ai beaucoup mis de choses dans ce livre. J'ai beaucoup simplifié. Ce livre, il est né comme on va brûler des choses dans le jardin. Et c'est l'odeur de la fumée, voyez ce livre. Et c'est une des choses les plus enivrantes que je connaisse. C'est un feu. Quand vous passez près d'un jardin où quelqu'un brûle des planches ou du bois mort ou de vieilles choses, de vieux objets dont on ne veut plus, le parfum, la petite prière anonyme de la fumée est enivrante, mais autant, sinon même mieux qu'un bon vin, qu'un très bon vin. Voyez. Et ce livre là. Je tiens à ce livre-là, évidemment, Le bruit de balançoire, j'y tiens, mais comment dire, il faut essayer d'aller toujours un tout petit peu plus vite que soi-même. Il faut essayer d'être un tout petit peu ailleurs, tout le temps. Vous voyez, je ne suis pas si sédentaire que ça. Vous voyez ?
Mais vous n'allez pas loin.
Non, je ne suis pas loin, non.
Vous n'avez pas besoin.
Non.
Là, sur cette terrasse, et quelques pas dans le jardin,
vous
voyez tout un monde.
Oui, ou comme tout à l'heure, une main, une vitre sale, une vitre avec une trace de doigt, pensez. C'est ma mère qui n'aurait pas aimé entendre ça.
Elle aurait vite nettoyé
trace
de main.
Oui, oui, elle m'aurait dit, mais écoute, on ne parle pas de choses comme ça. Puis d'abord, pourquoi elles sont sales, tes vitres? Tu devrais les nettoyer quand même, il y a des gens qui viennent.
Visage. RCF.
Christian Bobin, vos livres sont une invitation au voyage quand même, malgré tout. Un voyage dans la forêt ou au bord du lac de Saint-Cernin-du-Bois, pas très loin d'ici. Et puis moi, j'ai eu l'impression parfois de me trouver face à une montagne. Quand je vous lis, parfois je suis face à une montagne. Et il y a des phrases, une phrase, qui me semble comme un Himalaya. Et je me dis, je comprends pas.
Donnez-moi un exemple.
Page 18, pas besoin d'aller bien loin. Je l'ouvre dès le début. Page 18. Il faudrait peut-être que je mette le contexte. Mais c'est cette dernière phrase de votre lettre à la chair inconnue.
Oui.
Et la dernière phrase.
Oui.
Le cœur, cette défaite prodigieuse.
Oui.
Et là, je cale. Je me dis, où veut nous emmener Christian Bobin? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors je le remets dans le contexte.
Oui.
Le cœur, quand il existe, se voit de loin. Un mont Fuji dans la poitrine. L'écriture doit venir nous chercher où nous sommes, nous sortir de la tombe de nos vies, faire revenir dans nos veines le sang vieil or de l'amour. Le cœur, cette défaite prodigieuse. Expliquez-moi. Parce que le cœur est tellement important chez vous.
Quand vous aimez vraiment une personne ou une chose ou même un travail, quand vous aimez vraiment, vous êtes voué à une sorte d'échec miraculeux. Parce que ça ne sera jamais exactement comme vous vouliez. Ça ne sera jamais... Et puis, la vie est si dure par ailleurs. Elle vous oppose des choses à certains moments. Elle vous contre. Et elle a raison de le faire. Et puis même si elle n'avait pas raison, elle le fait. Donc, avec la volonté, vous gagnez des choses. Vous gagnez des places dans le monde. Vous le savez, vous avez fait une chose, si vous me permettez d'en parler, vous avez fait une chose incroyable. Travaillant quelque part, vous avez demandé le contraire d'une augmentation. Vous avez demandé à diminuer et à avoir un poste moins important. Ça n'existe pas, ça, d'habitude. Le cœur, il va vers ces choses-là. Donc, il ne gagne pas. Il ne gagne pas la loterie du monde. Jamais. Jamais.
Mais il gagne plus. Il gagne autre chose.
Oui, mais c'est autre chose que gagner à ce moment-là. C'est autre chose que gagner. Parce qu'un gain va toujours... un gagnant va toujours avec des perdants. Et dans ces histoires-là, dans l'amour, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Le Christ a... Parce que c'est quand même incroyable, cette chose. Il y a un homme qui traverse la vie sur assez peu de temps. Ses parents ne le reconnaissent presque plus. Il se fait engueuler par sa mère parce qu'elle lui demande pourquoi il traîne avec une bande de va-nu-pieds et qu'est-ce qui lui prend de parler comme s'il était en direct avec le ciel. Il a une vie publique, dite publique, de à peu près 3 ans. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit en gros ? Il nous dit que il faudrait s'aimer les uns les autres, il faudrait avoir pour l'autre l'intérêt qu'on a pour soi-même. C'est tout, c'est juste tout. Et en récompense, on le cloue comme une chauve-souris sur du bois. Et voilà, fin du premier épisode, et voilà. Et bien ça, c'est une des plus belles histoires d'amour qui soit. Parce qu'il n'y a pas de triomphe. Il y en a juste un, une semaine avant le désastre, sur un petit âne, avec des rameaux. Mais c'est sur un petit âne, c'est sur un petit âne. Et les gens qui l'applaudissent, la foule qui l'applaudit, c'est la même qui va le laisser être crucifié. Donc, l'amour n'est jamais, jamais, jamais vainqueur. Mais c'est comme ça qu'il triomphe, au fond. C'est comme ça que, dans un sens, il gagne. C'est en perdant qu'il gagne. C'est-à-dire, l'effacement, rien n'est plus beau que le dévouement. Rien n'est plus beau qu'un sacrifice. Rien n'est plus beau que d'avoir fait quelque chose sans aucun intérêt propre, sans rechercher son intérêt, sans même plus penser à soi, sans même plus exister. Rien n'est plus beau. Mais ça s'accompagne aux yeux du monde qui veut des causes avec des conséquences et qui veut de l'éclat. Ça s'accompagne d'une obscurité et ça s'accompagne de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. C'est pour ça, le cœur, cette défaite prodigieuse. Le mot prodigieux vient sauver le mot défaite et il l'emmène au ciel. Vous voyez ?
Vous ne parlez pas de Jésus dans ce livre, mais vous parlez de Dieu à 2 reprises. J'ai bien aimé, et à un moment, vous dites « 2 dominicains à table ». Dieu reprend du melon.
Oui, c'était cette table-là, vous voyez ?
C'était celle-ci où nous sommes là.
Voilà, celle que je viens de...
Vous avez eu un jour deux dominicains autour de cette table, oui. Et Dieu a repris du melon.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ah ben, je voulais vous faire sourire. Apparemment, c'est réussi.
C'est réussi.
Apparemment, c'est réussi. Ouais. Une phrase comme ça, elle vient, hop, je claque les doigts, elle vient tout de suite, vous voyez ? Elle, je ne la pense pas. Je ne veux pas un effet des phrases, je ne cherche pas un effet. C'est-à-dire que c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et après, j'en suis le premier surpris et je suis le premier amusé. Je suis le premier amusé. Ouais. Alors on peut détailler maintenant.
Bien sûr, on peut détailler, parce que ça veut dire que Dieu n'est pas dans ces grands discours théologiques que peuvent avoir les dominicains.
Oui, en même temps, il est là aussi quand même. Il est là aussi, mais il est peut-être là dans leur gourmandise plus que dans leur science théologique. Vous voyez ? Ce sont des personnes que j'aime beaucoup et que j'estime. Mais, oui, et puis vous savez, le nom de Dieu, il faut lui donner parfois un petit peu... Il risque d'être un petit peu trop enfermé, donc il faut l'emmener un petit peu à la fête.
Le rendre plus léger.
Le rendre plus léger, plus lui passer la main dans les cheveux, quoi.
Il y a un autre passage, moi, que j'ai vraiment adoré. C'est quand vous écrivez à votre bol. Mon pauvre bol. Vous lui écrivez, et vous écrivez ceci. Ton cratère était blanc, et cette blancheur sans éclat était l'uniforme de ton inexistence. Un bol aux cannelures framboises, venu d'une manufacture du nord de la France. Tu accueillais le thé noir du matin. Je te serrais entre mes mains, te volant sans scrupule ta chaleur. Tu avais la force d'un livre de prière. La brûlure transmise à mes mains me prouvait l'existence de Dieu, comme tout choc élémentaire entre le monde et ma chair. Dieu est à cette jointure. Mais tu me fais dire n'importe quoi. Je remets ta forme disparue devant moi et je continue. Parfois, parce que tu étais vide ou que le thé s'était refroidi, je n'avais plus en te prenant aucune sensation dans les mains. Dieu n'est plus par instant. C'est sa plus subtile façon d'être. Parler de Dieu à travers un bol.
Oui.
Ça, c'est la signature de Christian Gobin. Et c'est incroyable ce que vous mettez dans ce bol.
Oui.
Pour nous faire découvrir Dieu.
Oui.
Et surtout la fin, cette subtile façon d'être de Dieu, qui est quoi dans le vide, dans le retrait.
C'est ça, dans son presque contraire, dans son absence, dans ce qui semble être son absence totale.
Dans une présence-absence.
Oui, et il ne reste plus à ce moment-là qu'une confiance, mais injustifiée, injustifiable, et pourtant là, On rejoint un petit peu ce qu'on avait dit un peu plus haut à propos de cette main qui vous empêche de sombrer. Rien ne vous la prouve, rien ne vous la justifie. Peut-être même une des plus belles preuves de Dieu, c'est qu'on ne peut pas avoir de preuves sur lui, de lui. Et vous savez, le bol, c'est une expérience commune. Je ne fais que relater une expérience commune à ma façon, certes, mais c'est l'expérience d'une perte. Notre attachement va parfois vers des toutes petites choses. Et parfois, la perte des petites choses engendre un chagrin qu'on ne saura pas bien dire, qu'on n'osera pas dire. Il faudrait parfois regarder ce qui se trouve dans la maison de retraite, le peu d'objets qui accompagnent les gens dans leurs dernières années, qu'ils ont choisis, qu'ils ont élus. Si une de ces choses vient à se casser, c'est par le chagrin que ça engendre et par cette faille que quelque chose arrive qui est paradoxalement un gain. Quelque chose, comment dire? En plus, c'était pas un bol très, il avait rien de particulier puisque il sortait de l'industrie, il n'était pas façonné par un artisan.
C'était un bol ordinaire.
C'était un bol tout à fait ordinaire. Tout à fait ordinaire. Et c'est moi qui cognais sa tête contre le robinet, en le lavant. Avec une seconde d'inattention. Mais il y a un bol aussi dans les poèmes de Ryokan. C'est ce qu'il appelait son bol de mendicité. Et parfois, il le perdait.
Il faut savoir que les moines mendiaient leur nourriture. Et c'est ce que faisait Ryokan.
Voilà, on leur donne du riz. Le plus souvent du riz. Et qui leur fait un repas. Et son bol de mendicité, il le posait dans l'air pour jouer avec des enfants, parce qu'il attirait les enfants. Et les enfants aimaient bien cet homme qui ne ressemblait pas aux grands, aux adultes, aux autres adultes. Et de jouer ou de sourire avec eux, il laissait son bol dans l'air, mais après, parfois, il ne le retrouvait plus. Et il en avait un chagrin. C'est beau, le chagrin d'un saint. C'est beau qu'un saint ait une faiblesse pour un tout petit objet. Parce que je crois, moi, que dans certains objets, nous mettons le plus... Curieusement, nous demandons de prendre en garde le meilleur de nous-mêmes, de le garder.
Et ce n'est pas une forme d'attachement, contraire au principe des moines bouddhistes.
C'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'attachement. Mais comme, Dieu merci, personne n'est parfait, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Je ne suis pas pour vanter le détachement absolu parce que d'abord je crois que c'est impossible et puis le détachement peut ressembler à quelque chose d'extrêmement glacial comme l'intérieur du frigo, voyez. Donc
c'est pas le cas avec Ryokan en tous les cas.
Ah non,
et c'est pas le cas avec vous. Vous êtes un mendiant, Christian Gobin.
Comme vous, comme vous, comme ceux qui nous écoutent. Je crois qu'on mendie sans arrêt quelque chose. On mendie, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est pas de l'argent. C'est pas, ça peut être parfois une aide, mais même sans besoin d'aide apparent, il y a quelque chose en nous qui tend la main.
Voilà. On dit quoi ? De la reconnaissance, de l'amour ?
Au-delà de ça encore, au-delà, quelque chose, je ne saurais pas le nommer.
Cette main dont vous parliez tout à l'heure, qui va nous soutenir, on l'attend, on la mendie.
Peut-être, la vie c'est comme un drôle de jeu, la règle c'est de chercher, et si vous trouvez, vous avez perdu. Il faut continuer à chercher tout le temps, tout le temps. Si vous trouvez, vous avez perdu parce qu'en fait, vous avez trouvé quoi ? Vous avez trouvé une certitude. Une certitude, c'est une porte fermée, bétonnée. Vous avez trouvé une belle expression. Et une belle expression, ça risque d'être le glacis d'une perfection, de l'esthétisme. En fait, trouver, c'est se perdre, peut-être. C'est risquer de se perdre parce qu'on est sûr, on est certain de ce qu'on a. Il faut chercher. Il faut vraiment chercher. Il faut pas. Et en plus, on vous dit chercher, mais on vous dit pas quoi. J'ai une idée de ce que ça peut être. J'ai une idée, je vous dirai, de ce qui est à chercher. Il faut le chercher, mais ne croyez pas l'avoir jamais trouvé.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Nous-mêmes. Il faut chercher nous-mêmes. Et c'est la rencontre, et c'est le heurt aussi, le heurt qui peut être amical. Le heurt, c'est un mot que j'aime bien, qui n'est pas forcément agressif. Mais c'est la rencontre, c'est le choc d'une rencontre, ou d'un amour, ou d'une amitié, qui peut nous amener, nous éclairer sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui, nous cherchons nous-mêmes. Mmh. Et nous-mêmes, c'est un tout petit peu plus que moi.
Est-ce que c'est ce cœur enfant dont vous parlez ? Parce que sur la couverture du livre, vous écrivez « Ce qui parle à notre cœur enfant est ce qu'il y a de plus profond. J'essaie d'aller par là. J'essaie seulement. »
Voilà.
C'est ça ?
Oui, c'est ça. On peut le nommer comme ça.
Le cœur enfant qui est en nous, qui est nous finalement.
Mmh. Et qui est nous. Qui est nous plus que nous. Mmh. Qui est nous plus que le « nous que » dont nous nous servons pour nous saluer les uns les autres, dont nous nous servons pour aller au travail, dont un écrivain se sert pour mettre son nom sur un livre. C'est plus profond que tout ça. C'est une identité amoureuse. Et une identité amoureuse, elle est sans arrêt en mouvement. Sans arrêt.
Du coup, je comprends mieux une des phrases de ce livre. La vie est ce jeu où il s'agit d'approcher au plus près de soi,
oui,
sans s'en apercevoir.
Sans s'en apercevoir. Voilà.
Ça.
Voilà.
C'est quoi ce sens s'en apercevoir ?
Parce que si vous en apercevez, si vous avez trop de conscience, vous allez figer le jeu. Vous allez arrêter la recherche. Vous allez croire que vous avez trouvé. Vous allez vous endurcir dans une image. Il faut chercher, chercher, chercher. Vous savez, le modèle pour moi de vie ces temps-ci, depuis quelques mois, mais c'était déjà un peu présent dans le livre dont on parle, ce sont les roseaux. Il y a un étang pas très loin d'ici, pas celui qui est dans le village à côté, mais un peu plus loin, dans les bois, il y a un petit étang encerclé d'arbres, comme un miroir de poche. Vous savez, les miroirs de poche qu'on met dans les sacs. Et il y a, au bord du rivage, tout contre le rivage, il y a quelques roseaux. Et je m'y promène un jour et je vois le mouvement du vent dans la barbe des roseaux. Je vois cette raideur apparente des tiges et leur souplesse extrême en même temps. C'est le livre du Tao. C'est une page du Tao, mais en plein air. En plein air. C'est cette délicatesse, cette souplesse-là, pour moi, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ces roseaux, ils écrivent des pages de la Bible sans s'en apercevoir.
Finalement, la Bible n'est-elle pas écrite partout autour de nous ?
Oui. Oui.
Là, dans ce jardin,
tous les
dans
jours,
cette maison,
chaque
dans
jour.
Ce qui vous entoure.
Chaque jour. Et chaque jour, on traverse l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans des rencontres, dans des difficultés, dans des conflits, dans des désespérances. Chaque jour possède son unité profonde et dramatique et merveilleuse.
Y compris dans notre solitude.
Y compris dans la solitude. Y compris dans la solitude. Le cœur d'un homme seul, c'est une place publique. C'est traverser. Il a eu une mère, il a eu un père, il a eu des amis qui l'ont aimé ou qui l'a peut-être trahi. Il a eu... personne en vérité, n'est seul. Personne.
Et tout le monde est seul, quelque part, non ?
Ben, tout le monde, c'est personne. Tout le monde, c'est, quand on dit tout le monde, c'est qu'il n'y a plus personne. C'est un bloc. C'est une masse. C'est l'inverse de ce qu'on... C'est l'inverse de votre visage et de moi qui cherche à vous dire quelque chose sans trop savoir quoi en cherchant. C'est-à-dire, c'est un et un. On est moi, je suis en face de vous et vous êtes en face de moi. Et tout le monde, ça fait ce qu'on appelle une société. Et toutes les sociétés, c'est ce que Simone Veil, la philosophe, appelait le gros animal. Le gros animal, dont les mouvements d'échine sont redoutables.
Christian Bourbon, j'aimerais qu'on termine sur la notion de joie.
Oui.
Parce qu'elle vous tient à cœur, on le sait. Vous avez écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, L'Homme Joie.
Oui.
Puis nous, c'est un thème qui nous tient à cœur, la joie.
Oui.
Puisque RCF a pour slogan « La joie se partage ».
Oui.
J'aimerais savoir comment être dans la joie, dans un monde qui est tellement marqué par la finitude de notre condition humaine, par la souffrance, par tout ce qu'on entend. Comment être dans la joie ?
D'abord, je n'ai pas de recette ni de méthode. Mais si vous m'amenez à réfléchir de ce côté-là, je dirais que il ne faut pas déjà regarder le mal en face, ne pas en faire l'économie, ne pas oublier, en tout cas, sans se laisser enfermer dans cette pensée. La douleur qui court comme un fleuve noir dans le monde, qui est en train d'inonder à peu près, qui est en train d'inonder des continents entiers. Il faut savoir cette chose, il faut parfois y penser et connaître en même temps retrouver la force élémentaire qui va tout soulever, qui est plus forte qu'une insurrection, c'est la certitude basique, simple d'être vivant. Le sentiment concret qu'on est vivant, la chance, l'incroyable chance d'être dans cette vie, malgré toutes les balles qui volent, malgré tous les rideaux qui s'effondrent, toutes les scènes de théâtre qui brûlent, malgré tout ça, il y a une chose qui est plus belle que tout et qui viendra à bout de toutes les horreurs, c'est la fraternité d'être simplement vivant sur cette terre simple et ensemble. Et déjà avec ceux qui sont dans la pièce à côté ou ceux qui sont là. Cette chose-là, cette pensée-là, pauvre, elle change tout.
Merci beaucoup, Christian Bourbon, de m'avoir accueilli sur la balançoire pour faire un petit tour avec vous. Je rappelle le titre de votre livre, Un bruit de balançoire, que vous venez de publier aux éditions de l'Iconoclaste. Vous nous faites rencontrer beaucoup de personnes, pas seulement ce moine errant et poète qui est Ryokan, mais aussi des poètes russes, Lydie Datas, à qui vous consacrez une dernière lettre, et puis ce bol que j'ai tant aimé. Merci Christian Bourbon.
Merci à vous.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais. Assistante de production Anne Guigard. Réalisation technique, Philippe Faure.